Alors vous pouvez vous asseoir, prendre un papier ou un crayon si par hasard une parole pourrait être donnée pour que vous puissiez la méditer un peu plus tard. Alors l'intuition que je voudrais vous partager pour ce parcours et notamment pour ces précurseurs, c'est, je vais reprendre une image qui est une image qui est prise par le père de Lubac lorsqu'il médite sur le credo. Je l'ai peut-être déjà utilisé avec vous. Il considère le credo comme un sablier. Donc un sablier, vous voyez ce que c'est qu'un sablier? Donc il y a des grains dans un bocal en verre qui est en forme de 8 avec, et qui nous aide à mesurer le temps. Donc il y a tous les grains qui normalement tombent de haut en bas parce qu'il y a le principe de la gravité. Et donc tout le sablier s'égrène et tous les grains du haut passent par le centre très fin pour se retrouver en bas. Et quand le sablier normalement est vide en haut, eh bien c'est le moment de le retourner. Voilà, si vous voulez méditer là-dessus, vous pouvez lire Astérix chez les Helvètes et vous aurez un très bon exemple de l'usage du sablier pour calculer le temps. Mais ce n'est pas tant pour calculer le temps que je vous donne l'exemple du sablier, mais c'est pour prendre l'image où il dit que le credo, le père de Lubac dit que, en fait, le credo est ce moment jonction, vous voyez. Il dit qu'au fond, tout a été révélé dans la parole de Dieu, dans la personne du Christ. Et tout se trouve concentré, tout le mystère de la foi se trouve concentré au point focal, au point central, qui est le credo. Lorsque nous disons le credo, nous disons toute la foi. Mais c'est tellement concentré que tout ce que nous avons reçu du Christ, concentré dans ce credo, par les théologiens au fur et à mesure, va se déployer de nouveau. Vous voyez ? Donc on a le mystère de la foi dans la partie haute et large, le credo au centre, et tout le mystère déployé par les théologiens qui vont faire un livre sur peut-être un sacrement, l'autre sur le mystère de la rédemption, de l'incarnation, de la grâce, du péché, de tout ça. Et pour nous aider à comprendre ce mystère. Ça va? Alors, je propose, on verra à la fin de l'année si ça marche ou pas, hein, on ne peut pas le voir trop vite, mais je me demande si on ne pourrait pas dire la même chose pour le cœur de Jésus et Marguerite Marie. Qu'au fond, tout le mystère du cœur de Jésus qui est révélé dans l'Écriture et dans les précurseurs peut se concentrer, se retrouver dans l'expérience de Marguerite Marie à Paray-le-Monial, ici dans cette chapelle des apparitions, pour ensuite être redéployé dans le temps par tous les autres théologiens qui suivront. Alors, vous me direz, tout est déjà d'abord le point focal du mystère du cœur de Jésus, c'est la croix et c'est le cœur transpercé. Oui, c'est bien sûr ça, tout est là. Mais j'aimerais faire le lien entre ceux qui précèdent Marguerite Marie et ceux qui la suivent, et donc je vous propose un deuxième sablier, si vous voulez, un peu particulier. Mais je pense que Marguerite Marie réagirait déjà directement en disant non, c'est pas moi du tout, c'est le cœur de Jésus, c'est Jésus lui-même, surtout ne parlez pas de moi, Père Benoît, ne parlez surtout pas de moi, je ne veux pas que vous parliez de moi, comme elle le disait au Père Croiset il y a quelques années déjà. Alors, voilà, nous allons prendre cette image-là et essayer de la contempler. Et donc, je vais d'abord, dans ce temps qui m'est imparti, qui va être assez court au fond, notamment parce que j'essaie d'être délicat à ne pas parler trop vite et à articuler un petit peu, notamment pour tous les jeunes de l'école qui viennent de nous rejoindre, la nouvelle promotion de l'école d'évangélisation, qui a son lot d'Américains, d'Allemands, de Slovènes, de Belges. Et pour les Belges, il faut articuler beaucoup parce que c'est un Belge francophone. Donc voilà. Voilà. Mais donc, on va faire attention et puis aussi pour nos auditeurs. Donc, je ne sais pas si j'arriverai à tout dire, mais voyez, on va voir un panel assez large au fond. Et on va voir déjà qu'avant Marguerite Marie, le cœur de Jésus n'est pas né dans cette chapelle. Il était très présent déjà dans la spiritualité, dans la théologie chrétienne, dans la vie mystique, dans la liturgie aussi avec Saint Jean-Eudes. Et on va voir aussi justement comment son expérience rassemble un peu toutes ses expériences passées. Et d'une certaine manière, on pourrait, pour prendre une deuxième image, eh bien, rappeler les apparitions de la Vierge Marie à Lourdes. Hein, quand Marie apparaît à Lourdes, à Bernadette, elle dit « Que soy Immaculada Concepción ». Mais c'est ni du bon patois, ni du bon... Je suis l'Immaculée Conception, vous savez, vous vous souvenez de cette histoire. Et le curé qui dit, c'est qui cette dame qui te parle, la petite Bernadette là, demande-lui son prénom et reviens me voir. Et donc Bernadette rencontre Marie, Marie qui lui dit que je suis l'Immaculée Conception. Et donc Bernadette rentre en courant voir le curé, je suis l'Immaculée Conception, je suis l'Immaculée Conception. Et la première parole qu'elle dit au curé, elle dit je suis l'Immaculée Conception. Alors le curé ouvre les yeux devant cette petite fille qui déclare être l'Immaculée Conception. Et qui dit mais c'est quoi cette histoire? Ah, et il comprend en fait que c'est cette femme qui lui apparaît et qui dit je suis l'Immaculée Conception. Comprend bien que ce n'est pas Bernadette qui se prend pour l'Immaculée Conception. Et en fait, eh bien, juste avant les apparitions de Marie à Lourdes, l'Église venait de reconnaître et de proclamer le dogme de l'Immaculée Conception. Et donc le curé se dit, ce n'est pas cette petite gamine-là qui est au courant des derniers dogmes sortis de Rome. Et donc il comprend que celle qui lui parle a dû lui dire « Je suis l'Immaculée Conception ». Il trouve aussi toute la délicatesse de Marie qui lui a parlé dans sa langue, dans son patois. Et donc il comprend qu'au fond, c'est bien la Vierge Marie qu'il voit, et celui qui était un obstacle au départ à ces révélations, comme souvent les prêtres, d'ailleurs on est souvent des obstacles, quand les gens viennent nous voir, on dit d'abord qu'on ne croit pas, et puis après on travaille un peu. Bon ben voilà, et bien finalement il va soutenir Bernadette après. Vous voyez, ben, on pourrait peut-être dire cela un peu aussi de Marguerite Marie, c'est-à-dire que le cœur de Jésus, à travers les siècles, va se faire connaître, va être compris, va être médité. Et c'est parce qu'il y a une évolution déjà dans la compréhension et dans la théologie du cœur de Jésus que Jésus peut arriver à Marguerite Marie et dire « Bon, maintenant, vu tout ce qui est semé, je peux te dire, voilà ce cœur qui a tant aimé les hommes, que mon cœur est passionné d'amour pour toi, que j'aimerais que tu vives la réparation, que ce que je te propose n'est plus de l'ordre de la sphère du privé, mais peut être maintenant accueilli pour l'Église universelle et le monde entier. » Ça va ? Comme je ne pourrais pas tout vous dire ce soir, je vous conseille un très bon livre duquel j'ai tout pris. Hein, je n'ai rien de Benoît Guénas, tout est du père Bertrand de Margerie, jésuite, Histoire doctrinale du culte envers le cœur de Jésus, le volume 1. Et on parlera du volume 2 le mois prochain. Alors, si je replonge dans l'appel du cœur de Jésus lui-même, lorsque l'on regarde l'Évangile, connaît bien, hein, c'est le premier évangile des fêtes du Sacré-Cœur. Venez à moi, venez à moi, vous tous qui peinez sous le poids du fardeau. Et ce thème de saint Matthieu, hein, où Jésus dit je suis doux et humble de cœur, eh bien, va être souvent contemplé à travers plutôt l'évangile de saint Jean, et notamment cet appel de Jésus au chapitre 7. Que celui qui a soif, qu'il vienne à moi et qu'il boive, selon ces mots de l'Écriture, de son sein jailliront des fleuves d'eau vive. Voilà, ce verset, de son sein jailliront des fleuves d'eau vive, est un peu le cœur de la contemplation du cœur de Jésus, et qui trouve son application, eh bien, justement, au mystère de la croix, où, eh bien, le témoignage de Jean nous montre que ce côté de Jésus est transpercé, et Jean donne ce triple témoignage. De son sein jailliront des fleuves d'eau vive. Alors ce texte-là, cet appel, cette annonce des fleuves d'eau vive, eh bien, il est déjà enraciné dans l'Ancien Testament. Au fond, on pourrait faire toute une analyse sur le cœur de Jésus dans l'Ancien Testament. Mon père, Jésus, il n'est pas encore incarné. Comment on peut parler du cœur de Jésus dans l'Ancien Testament ? Et on entend le prophète Ézéchiel : « Je vous donnerai un cœur nouveau, je mettrai en vous un esprit nouveau, j'ôterai votre cœur de pierre, je vous donnerai un cœur de chair. » Je mettrai en vous mon esprit, alors vous vivrez. Et sur un autre aspect, plutôt sur la dimension du cœur de Jésus, de l'humanité du cœur de Jésus, l'annonce du Messie, on peut reprendre dans la figure du serviteur souffrant. Vous voyez, Jésus qui, comme dira le Concile plus tard, nous a aimés avec un cœur d'homme. Les figures du serviteur souffrant sont déjà un visage qui se dessine du cœur de Jésus. Donc il y a un premier appel justement sur ce Messie, sur Jésus qui nous sauve, sur ce cœur de Jésus qui veut sauver tous les hommes et qui répond à l'attente du peuple d'Israël, de ce cœur nouveau, de cet esprit nouveau. Un deuxième thème qui revient dans l'Écriture et que l'on célèbre à chaque heure sainte, ce serait cette parole « Mon âme est triste à en mourir, veillez et priez ». Vous voyez, et dans ce thème, eh bien, c'est tout le thème qu'on retrouve dans le cœur de Jésus, de la réparation. Voilà, Jésus qui attend des âmes pour veiller avec lui. Vous voyez, d'un côté, on voit le salut, l'amour du Seigneur pour nous. Et de l'autre côté, un thème important du cœur de Jésus, qui est Jésus qui attend des âmes pour être avec lui. Et ça aussi, on le retrouve chez Jérémie, hein, notamment quand le prophète Jérémie, vous m'avez abandonné pour vous creuser des citernes lézardées. Vous voyez, vous êtes fait des citernes lézardées. Ou alors l'image que les prophètes reprennent souvent de l'adultère. Voilà, vous êtes allé voir d'autres idoles. Vous m'avez quitté, moi, le Dieu qui vous est sauvé, qui vous est sorti d'Égypte. La première infidélité que nous expérimentons souvent, c'est d'être infidèle au Seigneur lui-même en nous faisant d'autres dieux. Et donc nous retrouvons aussi ce thème présent dans l'Évangile que Jésus va reprendre fréquemment. Voilà, sur ce thème de la réparation, d'aimer Jésus. Donc on voit bien, hein, il y a cette double réciprocité, d'abord qui reprend cette dimension sponsale qu'on retrouve aussi dans le Cantique des Cantiques, ou le thème de l'amitié, qu'on peut focaliser dans la figure de Saint Jean, ou alors de la Samaritaine par exemple, ou de Marie à l'onction à Béthanie, Marie qui manifeste son amour pour le Seigneur, Saint Jean qui est son disciple bien-aimé, qui demeure près de lui, ou le Cantique de Cantiques, hein, avec ces thèmes de oser, je te conduirai au désert, je te fiancerai à moi au désert, ou alors d'autres paroles, je t'ai gravé dans la paume de ma main, tu es à moi. Une mère peut-elle oublier son enfant? Si elle oubliait, moi je ne t'oublierai pas. Et puis, pour nous aussi, cet appel de notre côté, après ce côté de l'amour du Seigneur pour nous, eh bien, de notre côté, un appel à l'amour, hein, aimer Dieu, aimer son prochain. Il n'y a pas de commandement plus grand, dit Jésus. Aimez-vous les uns les autres comme je vous ai aimé. Alors, comme je l'évoquais, le point central de tout cela, de tous ces textes bibliques, c'est bien l'expérience du calvaire et le coup de lance, avec un mot qu'emploient les pères de l'Église souvent, qui est un mot barbare, mais il faut bien que je vous en donne quelques-uns quand même, qui s'appelle la transfixion. Voilà, Jésus, reçoit ce coup de lance et le côté est ouvert, le côté ouvert de Jésus après sa mort. Et c'est le seul moment où nous contemplons Jean qui donne un triple témoignage. Comme il y a une pause et une importance de ce triple témoignage de Jean. Tout est accompli et pourtant Jésus qui a remis l'esprit bien va nous donner cette surabondance de l'amour qui dépasse tout amour fini tel que Jésus le révélera plus tard. Alors, pendant le mois de février, ce mois où on invite particulièrement les nouveaux baptisés à venir à Paray-le-Monial pour vivre la rencontre de Paray, pour approfondir les fondamentaux, on aura toute une retraite autour de ce cœur de Jésus dans l'Écriture. On prendra le temps de se plonger dans la parole de Dieu, donc n'hésitez pas aussi si vous voulez vivre cette retraite du mois de février. Et donc, on ne va pas déployer beaucoup ce thème pendant cette retraite-ci. Ce soir, je vous parle des thèmes qu'on ne va pas beaucoup déployer pendant la retraite, voilà. Et alors, après l'Écriture, eh bien, il y a le témoignage des pères de l'Église. Et les pères de l'Église, vous allez le voir, on ne parle pas encore beaucoup du cœur de Jésus. Dans les textes que je vous ai donnés, on ne parle pas trop du cœur de Jésus. On parle du côté transpercé. Et les pères de l'Église, d'Orient et d'Occident, restent sur cette figure du côté transpercé, le coup de lance. Voilà, c'est ça qu'on le regarde. On parle du côté, on ne parle pas du cœur encore. Vous voyez, c'est comme si on ne montait pas encore jusqu'à la source. On s'arrête à l'ouverture sur le côté. Et donc tous les pères de l'Église vont contempler cette plaie du côté, et puis il y a de très belles expressions dans lesquelles on peut méditer, où justement on voit que ce n'est pas seulement un coup de lance, c'est pas un fait divers au milieu de la passion. Voyez. Pas à pas, les pères de l'Église, lorsqu'ils contemplent ce coup de lance, se disent « mais il y a quelque chose de grandiose qui se passe à ce moment-là ». Je vous citerai par exemple Saint Justin. Alors vous savez, c'est la grâce des pères de l'Église qui maîtrisent la parole de Dieu, de faire des rapprochements dans tous les sens. Donc, notamment, c'est vraiment les pères de l'Église qui font le premier rapprochement entre le côté transpercé et l'annonce des fleuves d'eau vive. Saint Justin, lui, va rapprocher le côté transpercé du rocher dans l'Exode où Moïse frappe le rocher, vous vous souvenez? Il frappe le rocher et de ce rocher jaillit l'eau vive. Et donc, il considère la lance comme le bâton de Moïse, et Jésus, le cœur de Jésus, le côté de Jésus, comme le rocher lui-même. Et voilà ce qu'il dit. C'est pour nous une joie de... Alors, Justin va être un martyr, donc voilà comment il considère sa mort prochaine. C'est pour nous une joie de marcher à la mort pour le nom du rocher glorieux qui dispense l'eau vive dans le cœur de ceux qui par lui-même, qui par lui aiment le Père de toutes choses et qui étanche la soif de ceux qui veulent boire aux eaux vives du salut. Alors, qu'est-ce qu'il nous dit simplement dans cette parole? Il dit que nous aimons le Père, nous pouvons aimer le Père par le Fils qui est le rocher. Le Fils qui est le rocher peut nous aider à aimer le Père, et c'est ce rocher qui nous donne l'eau vive de l'Esprit-Saint. Et nous sommes invités à venir boire aux côtés de Jésus. Venir boire l'eau vive aux côtés de Jésus, près du cœur de Jésus. Et donc, il y a tout ce mystère de la Trinité. Vous voyez, le cœur de la plaie, derrière cette plaie du côté, les pères de l'Église voient tout le symbole du Père. L'amour du Père qui nous donne le Fils, et le Fils qui nous donne l'eau de l'Esprit. Et par l'eau de l'Esprit, avec le Fils, je peux aimer le Père. Je contemple cela. Voilà le cadeau que Dieu nous fait. Il nous donne accès à l'Esprit-Saint par le Fils pour mieux honorer le Père. Premier exemple qu'on peut donner. Deuxième exemple qu'on peut donner avec Saint Jean Chrysostome qui dira « Quand tu t'approches du terrible calice à la messe, viens comme si tu allais boire aux côtés de Jésus. » Dans ce mystère du cœur de Jésus, de ces fleuves d'eau vive, de l'eau et du sang qui jaillissent du cœur de Jésus, il nous invite à contempler les sacrements, un autre thème que nous pouvons aborder. Et donc, nous sommes invités à travers ces textes-là, et demain nous prendrons ce texte, ce deuxième texte qui est proposé pour les messes du Sacré-Cœur, nous prendrons le temps de contempler de nouveau ce mystère de Jésus et du cœur transpercé, hein, le coup de lance du soldat. Voyez, et nous sommes invités, comme les pères d'une certaine manière, à voir bien plus large, voyez, à passer de « j'entends une histoire que j'ai déjà entendue 20 fois, d'autant plus si j'habite à Paray-le-Monial, on pourrait dire que j'entends 20 fois par an, et au minimum, pour dire « mais ah, là, il y a un mystère là, que les pères ont déployé, voyez, et dans lequel mon imagination lui-même peut se déployer aussi. » De contempler comme les membres de la garde d'honneur qui veillent une heure par jour, comme Jean et Marie au pied de la croix, voilà, passer chaque jour à méditer pendant une heure dans notre vie quotidienne, à se placer au pied de la croix pour comprendre ce qui se passe au mystère de la croix. Alors, on ne va pas déployer tous les pères, mais si vous voulez méditer, ce sera un bon texte à reprendre cette année. Vous pourrez prendre le texte du pape Pie XII dans l'encyclique Orietis Aquas, voilà, qui reprend tout ce thème du cœur de Jésus et qui le déploie par les pères de l'Église. Et donc, dans ce thème-là, Pie XII dit cette parole, « Les pères de l'Église ont très bien vu, comme l'apôtre Paul avant l'avait déjà clairement affirmé, que le mystère de l'amour de Dieu était comme le principe et le sommet de l'incarnation et de la rédemption. » Pourquoi est-ce que Dieu se fait homme? Pourquoi est-ce qu'il nous sauve? Eh bien, au principe de tout cela, il y a l'amour de Dieu pour nous. Et tout cela, vous pouvez le contempler dans ce coup de lance. Dans ce coup de lance, vous contemplez l'incarnation de Jésus, la rédemption de Jésus, enfin, Jésus qui nous sauve, et l'amour de Dieu pour nous. Ces trois thèmes, incarnation, salut et amour, que l'on retrouve ici. Ils ont affirmé que Jésus-Christ assuma une nature humaine parfaite et notre corps caduque et fragile afin de pourvoir à notre salut éternel et nous témoigner clairement, même sur le plan sensible, son amour infini. Dans cette scène, vous contemplez Jésus qui a pris notre condition d'homme, Jésus qui nous sauve et Jésus qui nous aime infiniment. Trois mots, mais derrière ces trois mots, combien de livres de théologie ont été écrits sur ces mots? Alors, après avoir évoqué trop brièvement les pères de l'Église, donc on avance un peu dans le temps, et on va arriver à un thème qui va se déployer plus tard, à l'époque où on commençait à construire notre basilique, qui est le thème du cœur de Jésus, la plaie du côté. On va commencer à se décaler, on va commencer à arriver justement, on avance un peu plus, et on va arriver à contempler le cœur lui-même. On va revenir plus haut, plus en profondeur, et le thème du cœur va apparaître. Et donc, notamment à travers un thème biblique et un texte biblique de l'Ancien Testament, qui est le Cantique des Cantiques. Et vous pouvez noter notamment ce verset, chapitre 4, verset 9 du Cantique des Cantiques, où le bien-aimé dit à sa bien-aimée, « Avec un seul de tes regards, sœur fiancée, tu as blessé mon cœur. » Avec un seul de tes regards, tu as blessé mon cœur. Tous ces hommes mariés parmi nous qui, tout d'un coup, jettent un regard furtif vers leur femme en disant, « Tu as blessé mon cœur, ô ma bien-aimée, par un seul de tes regards. » Vous voyez ? Alors, c'est ce thème du cœur qui va arriver, et donc ce thème de cette dimension sponsale, hein, et qui vient apparaître notamment déjà avant même Bernard, au 9e siècle, on a un homme qui s'appelle Aimon d'Auxerre, hein, donc il n'est pas très loin d'ici, et qui dit « Vous avez blessé mon cœur, dit le Sauveur, car mon amour pour vous a été la cause de ce que j'ai été blessé sur la croix. » Et si le cantique le répète par deux fois, « Je suis blessé, tu as blessé mon cœur », c'est pour mieux comprendre combien est grand l'amour qu'il a pour son Église. Vous voyez, donc le théologien regarde ce texte du Cantique des Cantiques et se dit, mais avant même de regarder la blessure de Jésus, il y a on va découvrir plusieurs blessures en fait dans le cœur de Jésus. Jésus est blessé d'amour avant même de recevoir le coup de lance en disant, mais je suis blessé d'amour pour ma fiancée. Et qui est ma fiancée? C'est l'Église. Voilà, et on va arriver dans ce qu'on appelle l'amour courtois qui va se déployer notamment au Moyen-Âge avec saint Bernard. Vous voyez, c'est le moment où, justement, on va commencer à construire les cathédrales. La cathédrale Notre-Dame de Paris, qui a commencé en 1163, ou celle de Reims en 1211. Eh bien, à ce moment-là, on nomme ces nouvelles cathédrales, on les appelle Notre-Dame. Ce qui est bien, c'est que c'est un Belge qui nous dit la bonne réponse. Il a bien écouté la leçon d'hier, c'est bien. Donc, Notre-Dame. Vous voyez, pourquoi on appelle ces cathédrales Notre-Dame ? Vous voyez, bien justement, on est à cette époque où on a une évolution dans la manière de comprendre la relation du chevalier vis-à-vis de sa dame. C'est ça l'amour courtois, c'est le chevalier n'est plus justement un homme qui a une femme qui peut être la génitrice de ses enfants et qui c'est bien, comme il dit, ben, j'ai ce qu'il me faut à la maison pour manger correctement et vivre joyeusement, vous voyez, et puis pour assurer ma descendance. On rentre dans cet amour courtois où le chevalier est là pour plaire à sa dame. Et donc, dans l'Église, vont être construites des cathédrales à l'honneur de Notre-Dame, et derrière cette figure de Notre-Dame, c'est la figure de l'Église. Et donc, saint Bernard et d'autres vont contempler Jésus, qui est l'époux pour sa bien-aimée. Et comment plaire à sa bien-aimée qui a blessé son cœur. Voilà comment, quand Jésus voit chacun d'entre vous, eh bien, il est blessé d'amour pour chacun d'entre vous. Saint Bernard dit sur son sermon sur le Cantique, « En pénétrant son corps, le fer de la lance est devenu la clé qui m'ouvre la porte afin que je puisse connaître la volonté du Seigneur. Que puis-je voir par cette porte ouverte? Les plaies du Seigneur crient que Dieu s'est réconcilié le monde par le Christ. La lance a transpercé son âme et a atteint son cœur. Pardon. Il est devenu impossible au Christ de ne pas compatir à nos infirmités. Les blessures corporelles de son corps ont mis à découvert le sanctuaire secret de son cœur et le grand mystère de sa bonté compatissante a été manifesté. » Voilà. Vous voyez peut-être que la blessure du côté, mais ce n'est que la clé de la porte pour rentrer. La lance n'est que la clé de la porte. Il faut aller plus loin et voir ce qui habite au fond et ce qui habite son cœur. Et ce qui habite son cœur précède le moment où la clé a été ouverte, où la porte a été ouverte, vous voyez. Mais par le fait que la porte soit ouverte, je vais pouvoir enfin comprendre ce qui habite le cœur de Jésus. Cet amour qu'il a pour nous. Il a eu compassion, il a eu compassion de nos infirmités. Alors, comme je vous le disais, eh bien ici on est à un moment où, dans l'histoire où il y a un changement, on passe de la plaie du côté au cœur. Ce changement va aussi s'inscrire dans l'imagerie. C'est le moment où on commence à symboliser l'amour par le cœur. On commence à graver des cœurs sur les arbres. Voyez. Et ben ça date de cette époque-là. Et Honoré d'Autun, donc pas très loin d'ici, hein, Honoré d'Autun, écrit au XIIe siècle, « On désigne maintenant le contenu par ce qui le contient. » Donc ça veut dire que le cœur veut symboliser tout l'amour. Qu'est-ce qui est contenu dans le cœur? L'amour de Dieu. Donc Donc maintenant, lorsque je vais faire le dessin du cœur, je vais comprendre pas seulement un cœur, pas seulement un organe, mais dedans, le contenu, c'est l'amour infini de Jésus pour nous. Donc cette image commence à arriver. Alors pour ceux qui sont des spécialistes de Marguerite Marie parmi vous, vous commencez à entendre dans les différents thèmes que j'évoque, plein de dans l'ombre, ça va vous dire « Ah tiens, ça me rappelle l'image que Marguerite Marie écrit, dessine ». Vous voyez, une image que l'on voit souvent et que l'on peut trouver dans les magasins, qui est juste un petit dessin. Et on peut dire, mais oh, quand je vois ce dessin-là, je ne suis pas transporté au septième ciel. Mais c'est tout le thème du symbole. Derrière ce petit cœur qu'elle fait, eh ben elle voit tout le contenu, tout l'amour du cœur de Jésus. Et si elle fait une grande blessure dedans en écrivant charité, c'est qu'elle voit tout cet amour de Dieu pour nous. Elle voit ce feu brûlant qu'elle a vécu en dehors. Vous voyez ? Et donc c'est un appel pour nous, quel que soit... Quand j'étais jeune et que je venais aux sessions d'été à Paray-le-Monial, je me souviens de cette dame qui avait dit, eh ben, pour me rappeler qu'il faut que je pense à Jésus, j'avais fait un petit rond avec une croix au milieu et je mettais ça un peu partout pour me rappeler qu'il fallait que je mette Jésus au centre de ma vie. Mais derrière ce petit rond et cette petite croix ou ce petit post-it, ben derrière il y a tout ce « Ah, mais Jésus, tu es le centre de ma vie ». Peut-être que chez vous, vous aurez un petit cœur, vous n'avez pas forcément des grandes icônes ou des choses, mais pour vous, ah, derrière ça, vous savez ce que ça veut dire. Voilà. Et ça nous rappelle cet amour de Dieu. Alors, derrière ce thème, derrière ce changement de paradigme, derrière ce retour au cœur, de cette découverte du cœur, derrière cette image du cœur, eh bien, va arriver aussi le thème de la réponse d'amour, ce qu'on appelle la rédamatio. Voilà, la réponse d'amour. On contemple l'amour de Dieu et du coup, on a envie d'y répondre. On veut répondre à l'amour de Dieu. Et Gilbert de Hollande dit « Quel que soit son amour, le chrétien n'aime pas, mais aime en retour. Parce que Jésus, le Christ, le premier nous a aimés, dit saint Jean. » Nous, c'est toujours un retour d'amour. On n'a pas l'initiative. Il n'y en a pas un parmi vous qui dit « Moi, j'ai aimé Jésus avant que Jésus m'aime. » Vous voyez ? On est toujours dans cette « Mystérieusement, Jésus, tu m'as aimé. » Tu m'as aimé le premier, et moi je te veux rendre de l'amour, reconnaître cette initiative de Dieu. Alors, à cette époque-là, ce qui est important de bien percevoir, c'est que, bien sûr, je vous parle du cœur de Jésus, mais le cœur de Jésus n'est pas le tout de la théologie, on n'est pas centré sur le cœur de Jésus. Pie XII dira que le cœur de Jésus, c'est le centre de toute la dévotion. On peut tout comprendre dans le cœur de Jésus. Vous voyez, mais le cœur de Jésus est un aspect, comme la Trinité en est un autre, comme on continue à contempler ces mystères-là, vous voyez. Alors, peut-être que l'on peut noter un dernier point, c'est dans cette période de la dimension, le symbole de l'amour de Jésus, eh bien, on va commencer à changer notre manière de parler. Par exemple, au départ, Bernard parle du cœur de Jésus. Il dit, le cœur de Jésus, il est beau, il est doux, il est gentil, il utilise des mots plus importants et plus théologiques que ça, vous voyez. Après, il y en a un autre qui va parler à Jésus de son cœur. Guillaume de Saint-Thierry dit, par exemple, « Pour que nous entrions tout entiers jusqu'à ton cœur, Jésus, ton cœur qui est le siège assuré de la miséricorde. » D'abord, on parle du cœur de Jésus comme quelque chose d'extérieur. Maintenant, on parle à Jésus de son cœur, et plus tard, avec Gertrude, et puis avec Marguerite Marie, mais on parlera directement au cœur de Jésus. Cœur de Jésus brûlant d'amour. Voilà. Pourquoi je parle directement au cœur de Jésus? Mais qu'est-ce qu'on a... Vous voyez, c'est qui? Souvent c'est un problème, mais je ne suis pas en train de parler à un organe, je parle à Dieu. Vous voyez, il y a une évolution. On comprend qu'au fond, derrière ce cœur de Jésus, c'est Jésus aussi, c'est toute la divinité de Jésus, c'est Jésus à qui je m'adresse directement. Vous voyez, je ne suis pas en train de réduire Jésus à son cœur. J'ai compris que dans ce cœur, il y a tout Jésus. Dieu est amour. Et quand je parle au cœur de Jésus, je parle à Dieu qui est l'amour. Vous voyez, voilà. Donc là aussi, peut-être que vous n'en êtes pas là, vous aussi, vous êtes en train de parler du cœur de Jésus, après vous parlerez à Jésus de son cœur, et puis on progresse, on est tous dans cette progression, mais l'histoire de l'Église aussi a progressé, vous voyez. Et sûrement qu'on a encore des choses nouvelles à déployer. Alors, il y a une nouvelle étape que je dois déployer, c'est les mystiques. Mais les mystiques, comme déjà il est tard, et qu'en plus, demain matin, le Père Cars va vous en parler largement, eh bien, je ne vais pas beaucoup déployer maintenant. Vous voyez, mais... Vous pourrez reprendre ça avec les grandes mystiques, notamment allemandes, avec Lusgard, Mechtild, Gertrude. Il y a deux Mechtild en plus. Voilà. Faut faire attention parce que ne faut pas les mélanger. Pourtant, elles font toute l'expérience de cet amour du Seigneur, l'ousgard qui est plus marqué, Jésus l'interpelle plus. Donc, c'est des femmes qui vont avoir des apparitions du Seigneur, mais des apparitions privées. Voilà. Jésus leur demande de vivre, de participer avec elles, avec lui, dans cet amour, dans ce salut des hommes, dans faire l'expérience de son amour, de reposer sur le cœur de Jésus, voyez, de rentrer dans ce mystère de la réparation. Pas à pas, toutes ces femmes eh bien, expérimentent intérieurement le cœur de Jésus. On pourrait dire que maintenant que le Moyen-Âge et Bernard et d'autres nous ont aidés à rentrer un peu plus dans le cœur de Jésus, eh bien, on va pouvoir, Jésus peut commencer à dire, bon, alors c'est bon, le temps est prêt, je peux commencer à venir reposer sur des cœurs et demander à l'une ou l'autre d'entrer dans ce mystère. Alors je ne déploie pas. Après cela, ou plutôt conjointement, eh bien, il y a aussi tous les théologiens qui vont méditer sur le cœur de Jésus, travailler davantage ce message du cœur, avec Saint Bonaventure, par exemple, avec Albert le Grand, avec Thomas d'Aquin, et donc tout le travail de Thomas d'Aquin, notamment de définir c'est quoi ce cœur, qu'est-ce qu'il y a derrière le cœur. Et on comprend tout d'un coup que le cœur, ce n'est pas juste l'organe, ce n'est pas juste l'amour de Dieu, mais il y a plein de choses dans le cœur de Jésus qui nous sommes invités à méditer. Le cœur corporel, qui est le principe de tous les mouvements, la volonté qui habite profondément le cœur, voyez. Le cœur spirituel, l'âme, l'intelligence, la volonté. Le cœur sensible, qui est l'instrument des passions de l'âme. Le cœur qui est encore le siège de la conscience morale. Réveillons nos cœurs, réveillons nos consciences, voyez. Et bien donc, le cœur est le centre de tout cela, est le centre de toute la personne humaine. Et le centre même plus que de la personne humaine lorsqu'on parle du Christ, qui est vrai Dieu et vrai homme. Alors, une expression de Thomas d'Aquin, pour vous donner une image un peu moins théologique, il dit que le côté transpercé du cœur de Jésus, c'est comme la porte d'entrée dans l'arche de Noé. Vous voyez ? Il dit, par ce côté, nous est ouvert la porte de la vie éternelle. C'est la porte dans le côté de l'arche par lequel entrent les animaux, destiné à ne pas périr dans le déluge. Donc, de temps en temps, allez vous réfugier dans le cœur de Jésus, passez par la plaie du côté, et dites, Seigneur, oh là là, si je veux être sauvé, il vaut mieux que je plonge dans ton cœur.